21h05. Évidemment, on est à l'aube du bilan de fin de saison chez le Canadien de Montréal. Vous savez que c'est demain que ça va se passer. Vous aurez la chance d'être bien informé sur l'ensemble du réseau Cogeco dès 16h30. Paul Hood, Mario Langlois seront là pour vous diffuser le point de presse en direct de Marc Bergevin. Martin McGuire ira recueillir les échos de vestiaire. Donc, on saura tout ce qui s'est passé dans cette journée. Sur la messagerie texte, j'ai eu une question. Concernant Ron, on me demande, hey, Ron est où? Est-ce qu'il est malade? Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ron a un petit enjeu de santé, c'est minime, vraiment minime, mais doit prendre un petit peu de temps pour se reposer. Il sera là sous peu pour être en mesure de venir égayer vos soirées. Et c'est avec bonheur et plaisir que je suis là pour réchauffer son siège jusqu'à son retour. Il était au centre de la patinoire samedi. Il a été un beau bonhomme, un beau monsieur pour remettre le trophée Jacques Beauchamp, Philippe Danault, entre autres. C'est Jean-François Chaumont du Journal de Montréal qui est avec nous. Salut Jean-François.
Salut Jérémy, j'avais même mis mon plus beau veston. Ouais, c'est pour toi.
C'était très, très joli, soit dit en passant. Est-ce que c'est intimidant d'être au centre de la patinoire?
Très, beaucoup plus que je le pensais. Honnêtement, j'étais nerveux. T'as toujours la hantise aussi de trébucher sur le fameux tapis. Puis tu connais la camaraderie aussi avec les journalistes.
Oui.
Je peux te dire qu'autour de la soupe, le sujet, c'était « Si tu peux tomber, Jeff, tu ferais notre soirée. » On m'encourageait justement à trébucher.
Okay.
Donc, à quoi ton cerveau peut penser quand tu arrives sur la glace, c'était justement à ça. Mais les moments, honnêtement, que j'ai trouvé les plus agréables, c'est avant d'entrer sur la glace, tu vois les joueurs qui sont dans le petit corridor. Moment que tu n'as jamais accès, tu n'y as pas droit. Puis je regardais d'un coin de l'œil Ryan Poehling qui était sur le point de jouer son premier match. J'ai toujours la curiosité de voir qui va venir lui parler, qui va lui donner un coup sur une jambière, peu importe. Puis bon nombre de vétérans, que ce soit Brendan Gallagher, Philippe Danault, même Carey Price qui jouait pas, ont pris le temps de lui glisser quelques petits mots à l'oreille. C'était le fun de voir cette camaraderie-là, de voir comment ça se déroule là, à quelques secondes, justement, d'un match.
Et surtout, quel match de Poehling. Écoute, il était l'étoile de la soirée. Je pense que même lui s'attendait pas à ça. C'était ça conclut quand même très bien cette saison. Difficile du fait que le Canadien n'a pas accès aux séries de fin de saison, deuxième année de suite, troisième fois en quatre ans. Mais c'était vraiment un feu d'artifice, ce dernier match.
Oui, puis ça relance le message d'espoir. Là. Quand Marc Bergevin dit qu'il veut construire pour l'avenir, qu'il croit qu'il va avoir établi de bonnes bases, le Canadien, c'est quand même 96 points. C'est une bonne saison, mais ça reste une déception parce qu'ils n'ont pas réussi à atteindre l'objectif d'une qualification pour les séries. Ils y ont cru pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, le Canadien avait une place en série. Mais on parle de Ryan Poehling, 3 buts, un bonus en plus en tir de barrage avec un autre but. Puis Poehling, après le match, là, il cherchait ses mots, il ne comprenait pas ce qu'il venait de vivre. En plus, ses parents avaient réussi à faire le voyage à temps du Minnesota. Ses frères, il y a 2 frères jumeaux qui sont plus âgés, était également sur place au Centre Bell. Pour lui, là, c'était juste plus gros que nature. Puis il cherchait même à savoir c'était quand son dernier tour du chapeau. Il y en avait eu un au championnat du monde junior avec l'équipe américaine. Dans une défaite de 5-4 contre la Suède, il avait marqué 3 buts cet hiver. Sinon, aucun tour du chapeau à Saint-Cloud où il a joué pendant 3 ans. Et il croyait que ça remontait à l'école secondaire, donc ça faisait un bail. Puis lui, son premier match, boum, 3 buts contre les Maple Leafs, contre Frédéric Anderson. Mais là aussi, il va falloir modérer les attentes. C'est un gars qui a marqué 8 buts cette saison. C'est pas un gars qui va venir marquer 25, 30, 35 buts à sa saison recrue. S'il peut faire l'équipe l'an prochain, ça sera déjà un beau premier pas. Mais c'est un joueur qui a quand même un bel avenir. Là. On le regarde patiner, 6 pieds 2, plus de 200 livres. C'est un jeune garçon sérieux, intelligent. Donc le Canadien, pour une fois, combien de fois qu'on a dit ou on a critiqué qu'il n'y avait pas de joueur de centre ou peu d'avenir à cette position, avec Kotkaniemi, avec Poehling, avec Nick Suzuki qui pourrait jouer au centre, le Canadien est entre belles mains à cette position-là.
Jean-François, quelle évaluation tu fais de cette saison-là? Je demande aux gens ce soir à savoir, sur 10, on donne combien aux Canadiens? Comment, toi, tu l'évalues, la saison? Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction? Est-ce que c'est un échec de ne pas faire les séries? Comment tu évalues ça?
Ben moi, je donnerais 7. Je pars d'un principe là, assez simple. Il n'y avait aucune attente pour le Canadien cette année. On croyait que c'était pour une saison de misère. On pensait que cette équipe-là se battrait pour un des derniers rangs nationales pour le premier choix peut-être au total. Mais Bergevin a eu l'audace d'y aller 2 transactions importantes. Max Domi pour Alex Galchenyuk. Un pari à court terme qui a été remporté avec Max Domi, qui a connu une très bonne saison, qui est venu remplir un poste important au centre. Et l'autre transaction, c'est Tomáš Tatar, Max Pacioretty. Tatar a joué très, très bon hockey pour le Canadien. Puis en plus, Suzuki pourrait venir se greffer à l'équipe dans quelques années. Un choix de 2e tour. Donc, Bergevin a quand même eu un bilan positif cette saison.
Tu sais, nous, de l'extérieur, on regarde ça et les attentes étaient très basses. Le public, en général, n'avait pas d'attente également. Mais à l'interne, tu ne peux pas être dans la Ligue nationale de hockey si tu n'as pas d'attente. À mon avis, à l'interne, avec les transactions, on était convaincus qu'on était capable de compétitionner pour une place en série de fin de saison. Donc, lorsque Marc Bergevin arrivera en bilan demain, et si on dit, ben écoute, on n'avait pas d'attente, je pense qu'on se trompe. On avait des attentes quand même, là.
Non, puis il faut quand même reprendre les paroles de Bergevin. On pouvait peut-être rire de lui quand il a fait son bilan à la fin de la saison dernière, puis même après le camp d'entraînement, Bergevin croyait que cette équipe-là était capable d'aspirer à une place en série. Puis c'est peut-être le côté qui va être décevant dans le bilan, c'est que pour la majorité des semaines pendant le calendrier, le Canadien avait une place en série. Ça a glissé au mois de février avec un mauvais mois, un mauvais voyage en Californie, quelques petits points échappés ici et là. Le Canadien a finalement manqué une place en série. Puis il faut quand même être... C'est le Canadien de Montréal. On ne parle pas des Hurricanes de la Caroline. On parle d'un marché avec une tradition immense. C'est quand même triste quand on se contente aujourd'hui de dire qu'une participation aux séries représente un bon pas pour le Canadien. Puis là, on n'est même pas en série. On est à, oui, seulement 2 points. Mais quand même, on reste positif par rapport à cette saison du Canadien. Il y a quelques cloches aussi. Là. Il y a quelques signes négatifs. Moi, je trouve la fin de saison de Jonathan Drouin laisse un goût amer. Drouin était parti pour une saison de pratiquement de 70 points. Ça a cassé à partir du mois de février. Est-ce qu'on va être capable de réparer les ponts pour l'an prochain? C'est à espérer. Drouin connaît bien également Dominique Ducharme. Est-ce que Dominique Ducharme va être capable d'être le conciliateur entre lui et Claude Julien? On verra pour la prochaine saison.
On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a signé ce gars-là à long terme. Ça Exactement. Fait de lui le plus haut salarié à l'attaque. On n'a pas le choix de le faire fonctionner. Et là, justement, il faut trouver peut-être des options qui sont intéressantes. Je ne suis pas convaincu que Jonathan Drouin apprécie. Puis je sais que les gens vont dire que ça n'a pas de sens qu'on dise ça, mais je ne suis pas convaincu qu'il apprécie jouer sur le troisième trio parce que lui se considère comme un top 6 de la Ligue nationale et doit jouer, selon lui, sur les deux premiers trios pour être capable d'avoir de bons joueurs avec lui. Maintenant, Kotkaniemi sera peut-être meilleur.
La journée qui a été placée avec Jesperi Kotkaniemi, on a vu comme aucune étincelle dans le regard de Drouin. Il baissait ses épaules aussi, il boudait un petit peu, il était peut-être malheureux de son utilisation. Mais il est passé d'un joueur qui jouait 17, 18, 19 minutes à du 13, 14, 15 minutes. Tu connais autant les joueurs de hockey pour les avoir côtoyés à l'époque où tu faisais le B de la TVA Sport. Ça va bouder, ça va se péter entre eux. Mais je pense que le Canadien a tout intérêt à replacer Drouin dans les bonnes grâces de l'organisation. C'est un joueur qui est hyper talentueux, reste assez jeune à 23 ans. Donc, on a le temps. Il y a eu d'autres faiblesses aussi. L'avantage numérique qui n'a pas fonctionné pour 80, peut-être des 82 matchs cette année. Le Canadien a fini à 12% environ des grenailles en avantage numérique. Mm-hmm. J'ai hâte de voir si on va être capable d'aller chercher un défenseur gaucher. Mais si on regarde en fin de saison, le top 4, à droite, c'est correct. Chez Weber, Jeff Petrie, c'est deux bons défenseurs pour être top 4. À gauche, Victor Mété, Brett Kulak. Je crois qu'on en demandait trop à Mété, on en demandait trop à Brett Kulak. C'est peut-être la position où le Canadien va vouloir s'améliorer. Au cours de l'été, c'est un défenseur gaucher. On en a parlé longuement cette saison. Mais ce sujet va revenir. Puis si on regarde à droite, parmi les défenseurs d'avenir, de Noah Jolson, s'il peut se rétablir de sa blessure à l'œil, de Josh Brook, qui a eu plus de 70 points cette saison à Moose Jaw. Puis t'as Alexander Romanov, qui est gaucher. Mais Romanov, il lui reste une autre saison avec le CSKA de Moscou. Donc, c'est pas avant 2 ans qu'on va le voir à Montréal.
Dans le cas de Kulak, lui, il sera joueur autonome avec restriction et 2 joueurs autonomes sans compensation, Fulin ainsi que Ben, qui seront donc libres au 1er juillet si le Canadien ne fait pas d'offre à ces deux défenseurs. Maintenant, je pense qu'on a besoin de punch à l'attaque également parce qu'il a toujours manqué un but important au bon moment pour faire en sorte que le Canadien ait ce coussin nécessaire pour aller remporter des matchs. Et là, je regarde, il y a des joueurs autonomes des attaquants joueurs autonomes qui seront là disponibles. Évidemment, il y en a qui vont signer avec leur équipe, ça c'est sûr et certain. Mais tu regardes des gars comme, il y a Panarin, on ne sait pas Panarin va aller où. Il y a Jordan Eberle, il y a Matt Duchene, il y a Jeff Skinner également avec Buffalo. Moi, je ne suis pas convaincu que Skinner a le goût de signer avec les Sabres de Buffalo, mais lui a connu toute une saison. Il me semble que ça ferait un bon fit avec le Canadien.
Jeff Skinner, c'est une saison de près de 40 buts. J'ai pas la statistique devant moi.
38 buts, 23 passes, 61 points.
Exactement. Bon. Mais Skinner, Jérémy, vient de l'Ontario. C'est un Ontarien. Buffalo, c'est juste l'autre côté. Il nous disait cette année qu'il a aimé ça à Buffalo, mais il voulait attendre la fin de saison pour renégocier. Phil Hosley vient de partir. Un nouvel entraîneur va rentrer. On verra. Mais le danger avec les joueurs autonomes, c'est de surpayer. Puis pour Montréal, c'est souvent de payer un petit peu plus cher parce que l'imposition est plus importante au Québec que bien des villes aux États-Unis. Artemi Panarin, déjà les rumeurs l'envoient avec les Panthers de la Floride. Joel Quenneville, par hasard, vient de débarquer en Floride. Panarin a joué pour Kentville à Chicago.
Mm-hmm.
Est-ce que Bergevin pourrait être tenté pour un Matt Duchesne, un joueur de centre? On verra. Il y en a un autre aussi, moi, qui pique ma curiosité. C'est un marqueur de 30 buts et plus depuis 3 ans avec les Islanders de New York. Porte le C cette saison, c'est Anders Lee.
Mm-hmm.
Possible aussi qu'il poursuive son aventure à Long Island, mais si jamais Lee devait devenir joueur autonome sans compensation le 1er juillet, c'est un marqueur. Il est gros, il est grand, il est puissant. C'est le type de joueur qui pourrait cadrer dans le moule du Canadien et qui aiderait aussi en supériorité numérique.
Ah, définitivement, on en aura besoin. Jean-François Chaumont, c'est toujours un plaisir. Je te dis encore une fois un gros merci d'avoir pris du temps pour nous ce soir. Et tu as fait un excellent boulot au centre de la glace et heureusement, tu n'as pas planté parce que ça aurait fait le tour des réseaux sociaux. J'en suis convaincu. Merci beaucoup, Jean-François.
Salut, Jérémy.
Salut, Jean-François Chaumont du Journal de Montréal.